Voix du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, si l'on prend un peu de recul, le tableau est inquiétant. Disparition massive de la biodiversité, changement climatique, raréfaction des ressources naturelles, pollution de l'océan, toutes ces réalités dont les conséquences commencent à se faire sentir de par le monde, nous annonce un 21e siècle complexe. Mais il y a une bonne nouvelle, nous avons en nous la capacité de nous adapter, d'innover pour transformer radicalement nos sociétés. C'est en tout cas la conviction de notre invité. Donc, bienvenue dans une leçon d'optimisme.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Joël Dornet.
Bonjour.
Vous avez été chercheur et enseignant dans les domaines de la biologie et de l'informatique au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous avez écrit de nombreux best-sellers sur les liens entre la vie et l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, vous êtes président de Biotix, qui est une entreprise de conseil stratégique qui s'appuie justement sur le mariage entre la biologie et l'informatique. Et votre dernier livre, La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, publié aux éditions Les Liens qui Libèrent, fait la synthèse finalement entre vos trois passions, j'ai envie de dire, la biologie, l'informatique et la prospective. Il n'en manque qu'une finalement, c'est le surf que vous avez introduit en France.
Le surf est toujours présent, effectivement, parce que je pense à la société fluide. Je pense que notre vie est un déséquilibre contrôlé. Il faut constamment s'adapter, se réadapter. Donc le surf est présent dans mon esprit.
Oui, c'est vrai que dans un monde comme le nôtre, hein, en plein bouleversement, la capacité d'adaptation qui est celle du surfeur face à la vague, elle est nécessaire.
Absolument, parce que le surfeur, il a besoin d'une information multidimensionnelle. Il a besoin de savoir où sont les autres surfeurs, quelle est la taille de la vague, est-ce qu'il y a des rochers dessous, d'où vient le vent, d'où viennent les autres vagues. Et donc c'est comme le manager d'une entreprise, il a besoin d'une information multidimensionnelle pour pouvoir garder le cap et faire en sorte que le lien humain, le lien social, la conviction des gens passe vers les motivations de l'entreprise.
Et puis vous dites que nous avons donc la capacité de nous adapter tout d'abord à nous-mêmes, quelque part, grâce à l'épigénétique. Alors qu'est-ce que c'est ?
Alors épi veut dire par-dessus. La génétique, c'est en quelque sorte le programme du vivant, l'ADN dont on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Et jusqu'à présent, on pensait que ce programme génétique contrôlait absolument tout le vivant, qu'on ne pouvait rien y faire.
C'était figé en quelque
c'était
sorte.
C'était écrit. C'était le destin, écrit. Or, avec l'épigénétique, qui est une des plus grandes révolutions de ces 20 dernières années, épi veut dire par-dessus. C'est-à-dire qu'en plus de ce programme, on peut moduler l'expression des gènes. On ne peut pas changer le code génétique, mais on peut moduler l'expression des gènes par notre propre comportement. Un comportement qui est fondé sur la nutrition, le sport, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait. Tout ceci fabrique dans notre corps des molécules qui vont dans le noyau, sur l'ADN, ouvrir ou fermer les tiroirs des gènes comme une clé ouvre et ferme des tiroirs.
Alors, vous partez du vivant, hein, ce qu'on appelle un peu le biomimétisme aussi. Vous dites que les abeilles et les fourmis font cela.
Alors, les abeilles, les fourmis et les jumeaux, c'est-à-dire que les abeilles, elles naissent avec tout le même patrimoine génétique. Une larve d'abeille a le même patrimoine génétique que la larve d'à côté. Sauf que si on nourrit une abeille avec de la gelée royale, à ce moment-là, il y a des produits chimiques qui rentrent dans l'intérieur de son corps, qui vont dans son noyau et révèlent certains gènes de l'ADN qui étaient endormis. Vous avez vu la différence entre une reine et une larve. Des jumeaux, ils naissent avec le même patrimoine génétique, mais si l'un d'entre eux va aller vivre aux États-Unis, va aller vivre dans leur campagne, manger différemment, et ben ils ont le même patrimoine génétique, mais ils vont être différents.
Donc nous aussi, on peut évoluer, faire évoluer donc l'expression de nos gènes, jouer avec ça, et c'est une excellente nouvelle.
Mais tous les jours. Tous les jours de notre vie, il y a 5 choses que nous pouvons faire, tous les jours. C'est la nutrition équilibrée, c'est le sport ou l'exercice modéré, c'est le management de ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire la tension permanente dans notre vie, personnelle, professionnelle, c'est le plaisir de faire ce qu'on fait, quand on a du bonheur et du plaisir, et enfin c'est l'harmonie du réseau social, familial et professionnel qui fait en sorte que ces 5 éléments nous permettent de fabriquer dans notre corps des produits qui vont ouvrir et fermer les tiroirs des gènes, les bons, fermer les mauvais et ouvrir les bons.
Mais alors ce que vous décrivez là, c'est la vie dont nous rêvons tous.
Mais on la rêve et on peut la faire. C'est la grande différence, c'est que la science nous montre que c'est pas seulement un rêve, c'est vraiment une réalité.
Mais alors du coup, est-ce que c'est la fameuse histoire de l'inné, le patrimoine que nous avons à la naissance, et l'acquis, ce qu'on acquiert au fur et à mesure de sa vie, c'est cela ?
Complètement, c'est la fameuse histoire qu'on avait séparé l'inné et l'acquis, on avait séparé Darwin, tout est fait par hasard, et c'est la sélection naturelle qui va garder les espèces les mieux adaptées, ou Lamarck qui disait la fonction crée l'organe, on les avait séparés complètement l'un et l'autre, mais l'épigénétique les rassemble, les rapproche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une forme d'hérédité des caractères acquis, des parents qui sont fumeurs, qui sont alcooliques, qui sont drogués, qui sont stressés, peuvent transmettre à leurs enfants et aux autres enfants des enfants une certaine forme de cette addiction.
Et des choses positives aussi.
Et des choses positives, évidemment, bien entendu.
Alors, vous expliquez par exemple que notre alimentation joue un rôle essentiel. C'est étudié par une science relativement récente qui s'appelle la nutrigénomique.
Oui, il y a deux mots, nutri, nutrition, génomique, gène. Et donc on a démontré, maintenant c'est une preuve scientifique de très nombreuses publications sur ce sujet, que ce que l'on mange influence nos gènes. Il faut considérer que les gènes sont comme des tiroirs, empilés les uns sur les autres avec des clés. Et si dans ces tiroirs, il y a des recettes, comme des recettes de cuisine, pour fabriquer un soufflé au fromage ou un poulet aux champignons. Donc, ces recettes, on peut prendre la clé, ouvrir le tiroir, prendre le soufflé et le fabriquer. Mais si on n'a pas la clé, on ne peut pas faire ce soufflé, il est fermé. Les gènes, c'est comme ça. Les gènes sont ouverts ou fermés, et c'est ce que l'on mange, c'est ce que l'on consomme, c'est le sport qu'on fait ou pas qui va ouvrir ou fermer ces tiroirs.
Et c'est notamment grâce au rôle de notre microbiome. Alors, parlez-nous un petit peu de ce microbiome, parce que ça, c'est fascinant.
J'adore le microbiome. Le microbiome, c'est les 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre corps, sur nous et à l'intérieur de nous, dans le côlon. Pour vous donner une idée, le nombre de cellules de notre corps, cellules de foie, cellules de rein, cellules de cœur, neurones, c'est 6 000 milliards. C'est déjà beaucoup. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la planète, c'est 1000 fois plus. C'est 6 000 milliards de cellules. Or là, il s'agit de 100 000 milliards de microbes. Et ces microbes sont utiles. Ils fabriquent des suppléments alimentaires pour nous, ils fabriquent des vitamines, ils nous permettent de lutter contre les autres microbes. Et je dis toujours, pour être en bonne santé, il faut garder notre microbiome heureux. Quand il est heureux, en bonne santé, si on ne mange pas trop d'antibiotiques, de trop de graisse, trop de sel, trop de sucre, il est en bonne santé et il nous maintient en bonne santé.
Et ce microbiome, il pèse 5 kilos en moyenne.
Plus que le cerveau.
C'est incroyable.
Incroyable.
Alors, il y a aussi des influences extérieures, hein, ce que vous appelez l'écotoxicité, tous ces polluants que nous avons fabriqués et qui nous polluent au quotidien. Nous avons reçu Robert Barouki, médecin biochimiste et toxicologue à l'INSERM, qui les étudie de près.
Nous, dans nos laboratoires, déjà, on étudie l'effet d'intoxique d'une molécule, par exemple, sur un organisme, des cellules, et on voit ce que ça donne. Ça, c'est quelque chose qu'on peut assez bien faire, et au total, on a une bonne idée de la toxicité de quelques centaines de composés. Mais la réalité de l'exposition, ce sont des mélanges, et des mélanges très compliqués. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça nécessite vraiment beaucoup de recherches avant d'arriver à savoir comment gérer ces questions-là.
Je parlais des perturbateurs endocriniens, ça fait beaucoup de débats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et où on les trouve ?
Les perturbateurs endocriniens ont modifié quelque part la manière dont on travaille la toxicologie. Avant, si vous voulez, on pensait la toxicologie un produit toxique qui vient tuer des cellules ou modifier l'ADN, faire des mutations dans l'ADN, etc. C'est un effet direct. Les perturbateurs endocriniens agissent de manière beaucoup plus subtile. Ils vont modifier cet équilibre physiologique de l'organisme, contrôlé souvent par des hormones. Hein, donc on a tous entendu parler de l'insuline, des œstrogènes, qui sont les hormones sexuelles de la femme, des androgènes pour l'homme. Ces hormones ont un rôle très important pour notre physiologie, pour notre développement et toute une série de fonctions. Et les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui viennent perturber leurs effets, soit les mimer partiellement, soit s'y opposer partiellement. Donc ils n'ont pas un effet visible de manière forte immédiatement, mais sur le long terme, ils vont modifier notre équilibre physiologique et entraîner des effets à plus long terme. Par exemple, apparition de certains cancers, des problèmes métaboliques de type diabète, obésité, certains problèmes de développement neurologique, etc.
Oui, Joël de René, la courbe croissante des cancers et des conséquences, enfin toutes ces maladies qui sont les conséquences des pollutions que nous avons fabriquées, ça c'est quand même une limite à notre évolution.
Absolument, mais ce qui est très juste dans ce qui vient d'être dit, c'est l'interdépendance d'un certain nombre d'éléments qui agissent les uns par les autres et se renforcent, et les synergies. Et il y a un mot que je voudrais ajouter qui est très important, c'est l'épitoxicité. On a comme on a un génome, on a un épigénome. Il n'est pas inscrit dans les gènes que fabriquent les enzymes et les protéines, il est inscrit dans les mécanismes de régulation de l'expression des gènes. Et donc cet épigénome peut être atteint par l'interdépendance de certains produits présents dans notre environnement ou même dans notre alimentation, et ça crée l'épitoxicité. Je vous donne un exemple, c'est la dépakine. la dépakine, un produit anticonvulsifant que beaucoup de femmes ont pris pendant qu'elles étaient enceintes, qui a conduit à des enfants mal formés. La dépakine, c'est du valproate de sodium. Or, on sait maintenant, on ne le savait pas il y a encore 3 ans, on sait maintenant que la dépakine est un perturbateur, non seulement du système nerveux des enfants, mais surtout des gènes, de l'expression des gènes. Il conduit à faire en sorte que certaines histones, qui sont les fourreaux qui entourent l'ADN, vont être perturbées par ces substances et faire en sorte que le gène ne s'exprimera pas de manière normale. Donc c'est l'épitoxicité dont le terme, il faut le retenir, il est très important.
Oui, et puis il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail, hein, c'est-à-dire toutes ces matières polluantes qui se réunissent les unes les autres et qui du coup créent presque de nouveaux polluants, et là on est face à une grande incertitude.
Alors c'est pour ça que l'intelligence artificielle dont on parle tellement, moi je parle plus d'intelligence auxiliaire, parce qu'elle va aider notre propre intelligence à se dépasser. L'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire ces quantités de données statistiques mondiales sur les dangers des produits et leurs interdépendances, va nous aider à démêler le vrai du faux et savoir vraiment qui est-ce qui agit et où ça agit.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi, mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et vous écoutez donc C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous sommes en bonne compagnie aujourd'hui avec le scientifique prospectiviste Joël de Ronay qui démontre dans son dernier livre que grâce à l'épigénétique, nous sommes capables de nous adapter. L'évolution de l'espèce humaine en est d'ailleurs la preuve, Joël de Ronay. On s'adapte depuis qu'on existe finalement.
Alors il y a des adaptations positives, il y a des adaptations négatives. Darwin l'a très bien montré avec les processus de sélection naturelle. Donc ce que l'on peut faire pour soi de bénéfique avec l'épigénétique, malheureusement il y a des choses qui sont involontairement faites par l'environnement. S'il y a trop de pollution, trop de bruit, trop de soleil, ça va aussi agir sur nos gènes.
Il faut qu'on apprenne à se fixer des limites comme on entendait à l'instant.
Qu'est-ce que vous pensez? La nutrition, c'est un bon exemple. Face à la pléthore alimentaire, la diététique, c'est savoir se fixer des limites pour être en bonne santé, en mangeant bien et en se faisant plaisir. Bonne santé, bien manger, se faire plaisir. Donc la gastronomie, c'est pas la privation. C'est la prévention n'est pas la privation. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et tout ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien personnellement et il n'y a pas de mal à se faire du bien socialement, ensemble.
En fait, la bonne recette, c'est le bonheur.
La bonne recette, c'est d'appliquer le bonheur collectivement, c'est-à-dire le partager. Partager le bonheur, c'est ça la bonne recette, c'est pas le bonheur égoïste.
Alors, il semble aujourd'hui, malgré toutes ces bonnes nouvelles que vous nous annoncez, que nous stagnons. C'est en tout cas ce que constate Jean-François Toussaint. Il est cardiologue et professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes. Il dirige l'IRMES, qui est un institut au sein duquel il explore les exploits sportifs.
On voit quasiment en athlétisme, en natation, chacune des disciplines, une d'entre elles qui s'arrête chaque année, depuis 1983, c'est pas récent ce modèle. Et même à l'intérieur des disciplines qui progressent, pour le meilleur d'entre eux, je pense à Renaud Lavillenie qui a battu le record de Sergei Bouka, en fait on se rend compte que les 9 autres parmi le top 10, parmi les 10 premiers, en fait régressent de 10 cm eux en 20 ans, alors que Renaud a gagné 1 cm face au record de Bouka. Donc cette discipline-là est en train de régresser comme les lancers du poids, les lancers du disque, comme un grand nombre de disciplines dans lesquelles on voit que la physiologie humaine arrive à ses plafonds. Et ce domaine-là est très contextualisé quand on comprend ce que sont les impacts de la nutrition sur le développement humain pour arriver à avoir de grands costaud, et donc des athlètes qui vont courir plus vite, sauter plus haut. Donc on voit ces augmentations-là, mais on les voit en même temps commencer à ralentir dans leur progression. J'en veux pour preuve la taille, par exemple, des basketteurs américains, qui sont les plus grands du monde, qui sont la concentration des plus grands athlètes du monde, chez les hommes comme chez les femmes. Eh bien, on voit que cette taille-là a cessé de progresser depuis 25 ans. Donc les maxima sont en train d'être atteints actuellement.
Nous aurions donc atteint nos limites,
non,
Joël de Ronay.
Pas vraiment, parce qu'il y a deux choses dans le sport. Il y a la personne physiologique, et peut-être là on va vers des limites, et puis il y a les instruments qu'on utilise, les outils. Et les outils évoluent. La perche de Lavillenie, elle a complètement changé par rapport à la perche d'il y a 20 ans ou 30 ans. Le matériau devient beaucoup plus élastique, beaucoup plus propulsif. Donc je suis d'accord, il y a des limites physiologiques, mais en même temps, les progrès techniques dans les matériaux et dans les instruments qu'on utilise font progresser encore les sports.
Donc en fait, il faut s'appuyer, selon vous, sur la technologie si l'humain atteint ses limites,
parce que c'est vrai que oui. Il y a les deux.
Il va falloir trouver des solutions pour à terme survivre quand même sur cette planète, même quand nous serons 9 milliards en 2050, ça va être compliqué.
Bah, c'est déjà compliqué pour l'alimentation, pour la faim dans le monde, c'est déjà compliqué. On sait qu'avec les technologies maintenant de la fermentation, les biotechnologies, on peut nourrir les hommes, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de nourrir en quantité, il faut nourrir en qualité. Et aujourd'hui, il y a trop de viande consommée dans le monde. C'est très mauvais pour l'environnement. Évidemment, parce que faire des élevages intensifs de bœuf, ça utilise énormément d'énergie, ça recrache du CO2. Or, la complémentation végétale alimentaire, le riz et les lentilles, par exemple, le couscous avec les pois chiches et la semoule, sont des compléments alimentaires, lysine, méthionine, qui permet d'avoir l'équivalent des protéines de la viande. On ne le dit pas assez. Et là, c'est sans les graisses et c'est sans la pollution environnementale. Donc, complémentons les végétaux, végétalisons notre nutrition, notre alimentation, apprenons à être plus végétaliens et végétariens et ajouter des vitamines nécessaires éventuellement si on est trop végétalien. Mais c'est absolument nécessaire pour l'avenir du monde.
Après, il y a des marqueurs sociaux, c'est-à-dire que dans certaines cultures, c'était le cas de la nôtre, même si c'est en train un petit peu de changer, manger de la viande, ça fait riche, quoi.
Mais ça fait riche maintenant, mais on n'a pas mangé de la viande pendant longtemps parce qu'on se servait du bœuf pour labourer, on se servait du revenu des animaux, le lait de la vache, les œufs des poules, plutôt que de tuer les animaux eux-mêmes. Tuer le cochon, c'est une sorte de cérémonie parce que c'est un capital dans la ferme, et même dans les insectes. Dans les insectes, il y a des protéines extrêmement utiles pour
le
corps.
On a fait une émission justement hier sur ce sujet.
Voilà. Et vous vous rendez compte à quel point l'élevage des insectes est beaucoup moins coûteux en énergie et en pollution que l'élevage de gros animaux. Or, les protéines sont là. Alors, évidemment, ça fait bizarre de manger des insectes, mais on peut faire des gâteaux de protéines à partir d'insectes. Donc, moi, je crois beaucoup à la possibilité d'utiliser les végétaux en complémentation. D'ailleurs, traditionnellement, tous les pays le montrent. En Inde, c'est le riz et les lentilles. Oui. En Chine, c'est le soja et le riz. Au Mexique, c'est les garbanzos et c'est les pois chiches, les haricots rouges et les maïs. En Afrique du Nord, c'est la semoule et les pois chiches. Donc partout, on retrouve cette complémentation traditionnelle. Tous les pays savaient le faire. Pourquoi on ne continue pas?
Ouais, parce que c'est l'agro-industrie qui a bouleversé un peu tout ça.
Évidemment, l'agro-industrie nous impose des produits qui ne sont pas bons pour notre santé. Ils sont trop salés, trop sucrés et trop gras.
Et quelles sont les autres recommandations pour stimuler nos gènes de manière efficace?
Alors le management du stress est très important. Le stress nous tue progressivement. Il y a deux choses qui nous tuent, c'est l'inflammation et l'oxydation. L'inflammation, le corps s'enflamme et il se mobilise contre lui. Et l'oxydation, le corps rouille. Avec des radicaux libres, avec des substances qui viennent de la pollution, de l'environnement, de la mauvaise alimentation ou de la fumée de cigarette. Donc on peut lutter contre l'inflammation et on peut lutter contre l'oxydation. Une alimentation équilibrée, notamment, passe par une alimentation colorée. Ça paraît étrange.
Il faut que ce soit beau.
Il faut que ce soit aussi beau. Beau et bon. Donc plus on mange coloré, plus on mange des épinards vertes, des choux rouges, plus on mange des oranges, des mandarines, des cerises, des myrtilles, plus ces produits contiennent des flavonoïdes, le mot est compliqué, mais ce sont des produits naturels, antioxydants, anti-inflammatoires. Donc dans notre alimentation, on a les meilleurs médicaments pour rester en bonne santé.
Donc ça c'est une clé, c'est un critère. Plus votre assiette est colorée, plus elle est saine.
Absolument, plus elle est bonne pour votre oxydation, contre l'oxydation, même le chocolat noir à 70% de cacao qu'on a critiqué pendant très longtemps en disant attention, c'est dangereux pour la santé. En fait c'est assez bon pour la santé, à raison de 2 carrés par jour.
Et vous dites même, d'ailleurs, sont un peu les mêmes propos que le président de la République Emmanuel Macron qui a été critiqué pour cela, mais vous dites un peu pareil, hein, 2 verres de vin par jour, c'est pas si mauvais pour la santé.
2 verres de vin par jour, c'est pas mauvais du tout pour la santé. Le vin contient du resveratrol, qui est une substance antioxydante, anti-vieillissement. Il faut le faire, donc boire un petit peu de vin, c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, Jeanne Calment le faisait, elle a vécu 120 ans.
Voilà, quand c'est dit par un scientifique, ça fait du bien finalement. Alors, nous avons tout de même de nombreuses solutions, hein, on l'a dit, pour nous adapter à notre propre corps et le faire vieillir le plus longtemps possible et le mieux possible, mais aussi pour transformer la société face aux immenses défis qu'il y a au 21e siècle, et vous le démontrez dans votre livre. Restez avec nous, nous en parlerons juste après. À tout de suite.
Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature pour Dieu pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé. Tout le monde qui grand coup va les manger. On nous danse Petro, on nous danse Mambo. Papa bon Dieu dit non, c'est la misère finie pour nous. Misère a fini pour nous. Misère a fini pour nous. Misère a fini pour nous. Misère nous finit.
Nous sommes en compagnie de Joël de Ronay aujourd'hui, ancien chercheur et professeur dans les domaines de la biologie et de l'informatique au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous mêlez ces deux sciences pour envisager nos futurs possibles dans votre dernier livre, La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors Joël de Ronay, dans la première partie de l'émission, vous nous avez expliqué que nous avons la capacité de modifier notre corps grâce à l'épigénétique, avec un peu de connaissances, finalement, nous pouvons en être le chef d'orchestre. C'est comme cela que l'humain a d'ailleurs pu évoluer et que nous sommes devenus si nombreux. Mais j'aimerais vous faire écouter les propos du biologiste Pierre-Henri Gouillon. Il est spécialisé en sciences de l'évolution et quand nous l'avons reçu, il nous a parlé aussi de l'importance que joue la culture dans notre évolution.
Les êtres vivants, au fond, c'est des extraordinaires transmetteurs d'informations et en fait, on montrera comment ils ont été produits même par de l'information et comment des différentes informations génétiques, culturelles, écosystémiques, écologiques, eh bien, toutes ces informations ont modelé les êtres vivants dans leur ensemble et aussi comment l'évolution a amené progressivement l'information génétique qui est le point de départ en quelque sorte à lâcher prise en quelque sorte en faveur d'une évolution culturelle, pas seulement chez les humains en fait, hein, la culture il y en a chez des tas d'espèces.
Mais c'est-à-dire que finalement quoi, le gène, l'ADN se transmet.
L'ADN se transmet et en se transmettant il a progressivement amené la production de tous les êtres vivants. Seulement évidemment ça suppose une adaptation constante par sélection naturelle avec la mutation etc. C'est des processus un tout petit peu compliqués mais enfin on peut les comprendre assez simplement. Et donc, tout ça évolue et doit s'adapter. Et en fait, l'adaptation génétique, c'est un peu long, c'est un peu lourd. Il faut qu'il y ait plein d'individus qui disparaissent parce qu'ils n'étaient pas adaptés. Sauf que si jamais, au lieu de rester comme ça, vous mettez en place un cerveau capable d'élaborer une culture, que ce soit chez des fourmis ou chez des poules, ou chez des chimpanzés, ou éventuellement chez des humains, eh bien, cette culture va être capable de produire des adaptations beaucoup plus vite que l'adaptation génétique. Et donc, l'intérêt de l'information génétique en termes de reproduction, eh ben, c'est de laisser la culture finalement s'adapter au lieu d'avoir à s'adapter elle-même.
Alors, est-ce que c'est pas justement toute la question de l'inné et de l'acquis ? Est-ce finalement notre héritage génétique qui nous détermine ? Ou est-ce que l'essentiel de ce que nous sommes dépend de notre capacité à nous adapter à notre environnement ?
Voilà, il y a évidemment les deux. C'est-à-dire que notre héritage génétique, déjà, c'est lui qui nous permet d'acquérir une culture. Si on n'avait pas le background génétique qui permet de fabriquer un cerveau capable d'absorber une culture et puis de la reproduire, etc., ben, il n'y aurait pas de culture, hein. Donc évidemment qu'il y a une part essentielle du génétique dans le fonctionnement du système. Simplement, effectivement, ce génétique va laisser progressivement, dans certaines lignées vivantes, le fonctionnement cérébral et la culture prendre tout à sa charge, au fond, l'adaptation. Chez les humains, il reste un petit peu d'adaptation génétique à des choses. Hein. On peut montrer qu'il y a des adaptations génétiques, mais enfin, c'est devenu négligeable par rapport à l'immense capacité d'adaptation culturelle. C'est-à-dire que quand il fait froid, on met des habits. Si on a envie de voler, on fabrique des avions. Si on veut aller sous l'eau, on fait des sous-marins. Tout ça, on peut le faire grâce à notre culture. Si jamais il fallait attendre d'avoir des gènes qui nous permettent d'avoir des ailes pour voler, des branchies pour respirer sous l'eau, etc., ça serait beaucoup trop long. Et donc, on voit bien comment la culture est beaucoup plus efficace, en quelque sorte.
Joël de René, comment réagissez-vous à ces propos?
Je réagis très positivement, parce qu'en fait, il faut considérer qu'il y a des gènes culturels, comme il y a des gènes biologiques. Ces gènes culturels, c'est l'idée géniale de Richard Dawkins en 1976, un grand biologiste britannique, qui, comme Waddington, lui, en 1949, a inventé le terme épigénétique. Richard Dawkins a inventé la notion de mème, comparable à des gènes culturels, mème, M-E, accent grave, M-E. Donc ces mèmes sont des gènes culturels qui sont propagés par la culture, amplifiés de manière virale par les médias, dans Twitter par exemple, ou les journaux, ou la télévision. Et donc ces mèmes culturels jouent le rôle des gènes en biologie, se propagent, se dupliquent, se stockent, dans une sorte de ce que j'appelle moi un ADN sociétal. Alors la grande question, c'est où il est caché l'ADN sociétal? Eh bien l'ADN sociétal, il est dans la constitution d'un pays, il est dans les statuts d'une entreprise, il est dans le règlement intérieur d'une association, il est dans les règles d'un jeu comme le rugby. C'est une forme d'ADN invisible, c'est un ADN parfois numérique, mais il est là. Et la grande question, c'est que si on peut modifier l'expression de nos propres gènes par l'épigénétique, est-ce que l'on peut modifier l'expression des gènes culturels par ce que j'appelle moi l'épimémétique? La mémétique, c'est une science qui existe. De même que la génétique s'occupe des gènes, la mémétique étudie la transmission des mèmes, c'est-à-dire des gènes culturels dans la société. Alors moi j'ai créé, comme Waddington a créé l'épigénétique, moi j'ai créé le terme de épimémétique pour dire que nous pouvons collectivement participer à la modification de cet ADN sociétal, c'est rien d'autre que la démocratie participative.
Et Internet, la révolution numérique nous aide à cela?
Complètement. Et les réseaux sociaux, surtout, pas seulement Internet, mais la communication quasi instantanée entre les gens. On l'a vu avec cette affaire de Weinstein, quand il y a eu des mèmes comme Balance ton porc ou des mèmes comme MeToo, c'est comme des gènes. Ça s'est propagé à une vitesse virale dans le monde entier. Et ça a libéré la parole des femmes et ça a même conduit des politiques à modifier des lois, à faire en sorte que le harcèlement sexuel ou bien le harcèlement des femmes dans la rue puisse être réglementé par des lois. Et donc, on voit comment un mème comme MeToo, la réaction sociétale globale et les politiques ont changé l'ADN sociétal.
C'est le principe de la pétition?
C'est le principe d'une pétition. C'était une pétition, j'allais dire, écrite dans les journaux. Mais avec les réseaux sociaux, la puissance, la démultiplication internationale est beaucoup plus forte qu'une pétition.
Alors vous écrivez que grâce à la révolution numérique, nous avons les capacités de transformation évolutive qui modifient notre représentation de la complexité des sociétés et du monde dans lequel nous vivons.
Oui, d'abord il faut une représentation. Et c'est un peu le choc que nous avons eu quand on a vu la Terre vue de la Lune. Ces premières images qui ont montré la finitude de la Terre, ça a été un choc pour beaucoup.
Qui est l'image la plus échangée dans le monde,
voilà,
paraît-il.
Cette image-là nous a montré la finitude de la Terre en même temps qu'on était tous embarqués sur cette même planète. On était dans la même globalité. Eh bien, je pense que la représentation que nous avons grâce au numérique maintenant de notre monde numérique d'Internet permet non seulement de le voir différemment, d'étudier des opinions publiques globales, des réactions comme MeToo, des réactions de gens à des terroristes ou des tyrans totalitaires. Donc non seulement on a une représentation de l'opinion publique, non seulement on a une représentation de ce que Jung appelait la conscience collective, mais on a surtout une possibilité d'agir par les réseaux sociaux.
Oui, après vous nous alertez sur les travers aussi de cette surinformation qui nous inonde et qui peut véhiculer des rumeurs, nous donner une vision aussi tronquée de la réalité.
Exactement, je pense que les fake news par exemple, les rumeurs, alors les rumeurs sont à la fois utiles et dangereuses. Les rumeurs propagées notamment par les tweets de Monsieur Trump, les rumeurs sont une espèce de moyen de régulation sociétale. On a besoin du candidaton, on a besoin de savoir ce que disent les gens. Alors ça paraît très bas de gamme, mais en même temps ça aide les gens à se situer les uns par rapport aux autres. Donc la rumeur, le qu'en dira-t-on, les bruits qui sont maintenant en colpe.
Ça peut faire très mal.
Ça peut faire très mal, mais ça peut être aussi utile à la manière dont se représentait la société dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. Mais ça peut faire très mal. Un tweet de Trump peut détruire la carrière d'une personnalité politique ou détruire des années de diplomatie entre des pays où, rappelez-vous, les diplomates mettaient des semaines à rédiger des textes pour mettre des chefs d'État d'accord. Monsieur Trump, en deux tweets, il peut ruiner absolument tout ça.
Et il en écrit beaucoup. Et vous parlez donc de disruption. Là aussi, c'est un concept qu'il faut expliquer.
La disruption, c'est le changement, une véritable mutation sur quelque chose qui est considéré comme acquis. Dans les structures d'entreprise, par exemple, l'ubérisation, c'est-à-dire le fait qu'on met l'offre et la demande en permanence sur un écran d'un smartphone très rapidement et on peut, en cliquant, avoir tout de suite le résultat de ce qu'on veut, c'est une disruption des structures traditionnelles, pyramidales, verticales des entreprises avec toute leur hiérarchie. Donc cette disruption, elle est en train de changer le monde dans lequel on est par la rapidité, on appelle ça le temps réel, et par la relation entre l'offre et la demande en deux clics. Et donc cette disruption, elle est considérée par des entreprises comme celles qu'on appelle GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, notamment qui est en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont réussi à créer une fine structure, une fine couche humaine et technologique par-dessus des énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts pour se mettre en relation directement avec les gens, c'est-à-dire nous, où se trouve l'argent. Donc ils cassent les coûts. Et nous mettent, nous, en fonction de nos soucis et de nos souhaits rapides.
Oui, et donc à partir de là, c'est vrai que ça touche tous les secteurs de l'économie, la banque, l'assurance, la santé.
En Afrique, on va beaucoup plus vite pour s'acheter et se vendre quelque chose grâce à son mobile, en faisant ce qu'on appelle du mobile banking, qu'en Europe, beaucoup plus vite. Donc l'Afrique est en avance sur l'Europe et même sur le monde dans le mobile banking grâce au téléphone portable.
Alors vous parliez de la représentation du monde que l'on a grâce à cette surinformation. En même temps, elle est un peu biaisée parce qu'on sait que par exemple dans les réseaux sociaux, nous sommes amis qu'avec ceux qui ont les mêmes goûts que nous. Donc les nouvelles qui nous arrivent finalement correspondent à nos aspirations et ça façonne presque notre vision du monde.
Vous avez raison, ça façonne, ça crée des bulles. On est enfermé dans ce petit monde, on se poste des choses les unes pour les uns pour les autres d'une manière un peu égoïste, mais la génération dite des millennials, c'est-à-dire ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, ils nous apprennent quelque chose de très important. C'est qu'ils nous aident à passer de la société de l'information à la société de la recommandation. Ça, c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à l'infobésité ou à l'infopollution. Il y a trop d'informations. Et la difficulté, c'est de les rendre pertinentes pour notre travail, pour notre métier, pour notre vie. Eh bien, cette génération-là, grâce aux réseaux sociaux, en passant leur temps à se recommander quelque chose, lit ce livre, il a 5 étoiles, va voir ce film, il est très recommandé, attention, ça c'est des fake news, il nous aide à rendre indirectement l'information pertinente et à surnager dans ce surcroît d'informations, dans cette pléthore informationnelle.
La recommandation serait finalement une sorte de nouvelle monnaie?
C'est une forme de diététique. La recommandation, c'est comme la diététique de l'information que j'ai appliquée à la diététique de l'alimentation avec mon livre « La malbouffe » que j'ai écrit avec ma femme en 1979. Donc je parlais déjà de la diététique alimentaire. Ben maintenant, je parle de la diététique de l'information fondée notamment sur la recommandation, le choix, la pertinence.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Je sens la chaleur de l'été. C'est...
Sébastien Tellier dans C'est pas du vent sur RFI en compagnie de Joël de Renais qui vient de publier La Symphonie du Vivant aux éditions Les Liens qui Libèrent. Dans votre livre, Joël de Renais, vous dites que nous sommes en train de vivre une révolution, mais il faudrait aller même un peu plus loin que cette révolution. C'est en tout cas l'avis du philosophe Patrick Vivray.
D'une certaine façon, nous avons besoin de faire plus une révolution, de faire ce que Edgar Morin évoque sous le terme de métamorphose, quelque chose à la fois de plus radical, en entendant le mot radical au sens de racine, de plus profond, mais aussi de plus complexe. Et nous avons besoin aussi d'avoir la mémoire des échecs ou des contre-productivités des révolutions antérieures. Quand on se contente de remplacer des anciens despotes par de nouveaux despotes, ce qui a été le problème de la Révolution française, on comprend bien qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc ça veut dire quelque chose de très radical du point de vue de l'exigence transformatrice, mais qui vient complètement changer la nature du rapport au pouvoir, qui ne se contente pas de l'inverser, mais qui en transforme la nature même.
Transformer la nature du pouvoir qui nous gouverne, c'est aussi ce dont vous parlez, Joël de Renais.
Absolument, j'aime beaucoup Patrick Vivray, depuis très longtemps j'ai travaillé avec lui dans le groupe des 10, et en fait ce qu'il dit c'est essai-erreur, il faut savoir s'adapter par essai et par erreur, donc expérimenter ensemble, c'est l'expérimentation ensemble qui permet de changer d'air étant le grand thème du forum que chaque année on organise à la Cité des Sciences. L'année dernière c'était « Au boulot les robots ». La vie aux humains, cette année, c'est de trouver sa place sur l'éducation. Donc voilà, c'est par un processus de tâtonnement que l'on avance pour aller vers la réalité de notre action sur notre propre environnement et sur notre politique.
Oui, parce qu'il y a urgence quand même, hein, aujourd'hui, d'évoluer, d'avancer pour vivre mieux ensemble.
L'urgence, elle est là, puisqu'on voit les catastrophes qui résultent de maltraitement de la Terre. On le voit avec le réchauffement climatique, bien sûr, mais on le voit aussi, surtout, on ne le dit pas encore suffisamment, dans la pollution. La pollution des villes, la pollution de l'air, la pollution par les diesels, on est en train de faire quelque chose, la pollution par une malbouffe, tout ceci est presque pire que le réchauffement climatique, dans la mesure où ça nous, de manière insidieuse, agit tous les jours sur notre vie.
Et ça joue sur la disparition de la biodiversité.
Et ça joue sur la disparition de la biodiversité. Ça joue, on l'a vu aussi, sur la reproduction de nos enfants avec les perturbateurs endocriniens. Et évidemment, on le voit aussi avec les épimutations dont je parlais tout à l'heure, les changements qui sont invisibles sur le plan des doses toxiques traditionnelles, mais qui sont beaucoup plus difficiles à voir sur l'expression des gènes.
Alors vous misez beaucoup dans vos différents ouvrages et dans la Symphonie du Vivant à nouveau sur la révolution numérique. Vous dites c'est quand même de là que va venir énormément le changement. En même temps, pour l'instant, on assiste, hein, vous en parliez tout à l'heure, à la création de nouveaux monopoles, hein, les GAFAMA, là, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba ou Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber sont les nouveaux maîtres du monde.
Ils sont des monopoles numériques. Ils essayent de nous faire en sorte que nous ayons tous les jours de notre vie devant nos yeux un écran qui propose leurs services.
Ça marche.
Non seulement ça marche, mais nous on laisse des informations ces jeux qui revendent à d'autres. Donc on est des contributeurs en quelque sorte à la valeur ajoutée du succès de ces entreprises. Alors il y a des voix qui s'élèvent, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. L'Europe a lancé le GPRD, c'est-à-dire le Groupement Général pour la Protection des Données de la Vie Privée, qui a mis 4 ans à être négocié à cause des lobbies justement de GAFAMA. En France, un garçon comme Gaspard Koenig, qui dirige Génération Libre, a écrit un livre absolument remarquable sur la manière dont on peut faire en sorte que nos données personnelles ne soient pas prises automatiquement, mais en quelque sorte fassent l'objet d'un échange marchand. Donc c'est en train de bouger. Je pense que la co-régulation citoyenne participative, c'est un grand mot, mais elle utilise les réseaux sociaux, elle utilisera de plus en plus l'intelligence artificielle et le big data pour faire en sorte que nous ayons notre voix au chapitre et qu'on puisse s'exprimer par ce que j'appelle d'une manière un peu humoristique la cyberversion, c'est-à-dire la subversion cybernétique.
Oui, parce que vous dites finalement qu'à l'image des gènes dans notre corps, nous pouvons, chacun au niveau d'Internet, changer la donne, influencer.
Collectivement, les réseaux sociaux sont un moyen puissant dont on a pour le moment un sentiment diffus de notre propre pouvoir. On l'a vu quand même avec l'affaire Weinstein. On va le voir de plus en plus maintenant que les gens commencent à savoir dompter ce mécanisme. À la fois, c'est un risque pour les fake news et certains tweets inacceptables, mais en même temps, on est en train de prendre conscience de notre pouvoir vis-à-vis des institutions totalitaires, vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis d'idéologies religieuses. Et ça, c'est une grande force qui est en train de se créer progressivement. On n'y est pas encore, mais on y arrive.
Donc la coopération remplacerait la compétition? Est-ce que c'est ça le défi du XXIe siècle?
Les millennials dont je parlais tout à l'heure, ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, ils sont dans des domaines où ils cherchent plus la coopération internationale, ils cherchent plus la retombée sociétale de ce qu'ils veulent faire. Je connais beaucoup de jeunes qui, pour créer une entreprise, sont plus seulement des start-up faites pour croître et faire du bénéfice et du profit, mais beaucoup d'entre eux veulent faire des start-up qui ont un impact sociétal, qui ont un impact pour aider les gens. Ce que Jeremy Rifkin, dans ses extraordinaires livres, appelle les « collaborative commons », et que Macron, dans son discours de Davos, a appelé les « common goods », les biens communs. Travaillons pour les biens communs. Et beaucoup de jeunes de la génération des millennials cherchent à créer des entreprises pour le bien commun.
Alors, quels sont ces biens communs?
Alors, les grands biens communs, c'est l'éducation, la santé, l'environnement, le numérique, le partage, la solidarité. Tout ceci fait partie des biens communs et nous pouvons aller vers les biens communs et les start-up qui se créent vont dans ce sens aujourd'hui.
Après, vous dites qu'on peut arriver du coup à la naissance d'une conscience mondiale, ce qui pourrait créer une autre citoyenneté, un autre rapport aussi à la politique, à la gestion de nos sociétés.
Alors Jung l'avait bien dit dans ce qu'il appelait la conscience collective. Maintenant, on le voit avec les réseaux numériques. Moi, dans plusieurs de mes livres, déjà dans Le Macroscope en 75 et puis dans L'Homme symbiotique, j'ai parlé d'un cerveau planétaire. J'ai dit que nous sommes un peu les neurones de la Terre et que nous créons un réseau neuronal entre nous, dont Internet n'est que l'embryon, l'écosystème numérique dans lequel se situe Internet et comme le partage de nos cerveaux. Teilhard de Chardin, le père jésuite, avait appelé ça la noosphère, la sphère de l'esprit. Il ne connaissait pas la cybersphère, mais on y est. On connecte nos cerveaux les uns aux autres. Est-ce que ça crée une intelligence collaborative? Est-ce que l'intelligence artificielle va être, moi, ce que j'appelle une intelligence auxiliaire plutôt qu'une intelligence artificielle? Qu'elle va nous aider à développer dans notre cerveau, à augmenter nos propres qualités et aller vers ce que j'appelle l'intelligence humaine augmentée collaborative. Ça, c'est un grand enjeu du futur. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais la voie est déjà tracée.
Reste que cette révolution numérique a un immense impact environnemental. Comme nous le rappelle le journaliste Guillaume Pitron, auteur de « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ».
Il faut quand même comprendre que le numérique repose sur un postulat qui est un leurre total. C'est l'idée que parce que nous allons vers le digital, nous allons nous affranchir de la matière. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir envoyer un email plutôt que d'avoir à écrire une lettre sur du papier qui est de la matière physique et de la faire transiter via une voiture qui génère du CO2. Mais en réalité, un email, ça a un coût environnemental considérable, un email. Et toute l'infrastructure, le léviathan numérique qui se trouve derrière un simple email et qui plus est derrière un algorithme, c'est quoi? C'est des millions de milliards de kilomètres de câbles en cuivre. Ce sont des serveurs, ce sont des data centers, ce sont des fusées qui doivent envoyer des satellites et avec des ordinateurs qui doivent calculer la bonne orbite. Et donc, pour pouvoir mettre ces satellites sur la bonne orbite de manière à ce que ces satellites nous renvoient l'information en temps réel et nous géolocalisent sur nos téléphones portables. Et ça, c'est quoi? C'est de la matière physique, ce sont des métaux rares. Et donc, sous couvert de nous affranchir de la matière, eh bien, en réalité, nous sommes retrouvés dans un système qui nécessite le recours exponentiel à toujours plus de métaux rares.
Ça, c'est une sacrée limite, la révolution
numérique. Il a parfaitement raison. Il y a deux limites, les matériaux rares et l'énergie. La société du numérique est extraordinairement consommatrice d'énergie. Google est en train d'installer ses serveurs pour les moteurs de recherche sur des barges au milieu de l'eau pour pouvoir les refroidir. Donc, énergie, matériaux rares, c'est vraiment le prix à payer pour la société du numérique et le tout numérique, l'écosystème numérique dans le monde du futur.
Mais quand vous dites le prix à payer, c'est que vous considérez que de toute façon, c'est pas grave, on peut aller plus loin, plus profond
Non, pas du tout, je dis pas que c'est pas grave, je dis qu'au contraire, c'est une des limites, comme la nutrition était une des limites pour nourrir le monde. Donc, la pollution, l'infopollution, l'infobésité, c'est un prix à payer, il faut se nourrir de cela pour pouvoir aller contre avec, je pense, l'intelligence auxiliaire va beaucoup nous y aider, mais être absolument conscient que cette société du numérique, ce n'est pas une société libertaire comme on l'avait cru au départ d'Internet, et en même temps, elle est très coûteuse en énergie et très coûteuse en matériaux.
Mais l'intelligence artificielle dont vous parlez, elle aussi repose finalement sur le numérique?
Bien sûr qu'elle repose sur le numérique, mais avec un moyen de démultiplication tellement puissant que le temps réel de l'intelligence auxiliaire, il est tellement rapide et tellement, par exemple, pour lire des publications médicales, il y a 175 000 publications médicales dans un domaine d'une discipline par an, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers par mois. Moi, si je veux les lire, ça va me prendre 5 mois. Le Watson d'IBM, l'intelligence artificielle d'IBM, le fait en 5 secondes. Donc c'est la vitesse qui change les choses. Évidemment, on dépense du temps. Mais ce temps-là peut être utilisé à autre chose, puisqu'on en gagne, on en investit. Je ne vais pas dire gagner, parce qu'on ne gagne pas de temps. On doit tous mourir de toute façon. Mais on peut investir du temps pour se payer des dividendes temporels et être capable d'agir différemment.
C'est pour ça que vous dites les robots au boulot.
La vie aux humains.
Finalement, vous pensez que c'est ça l'avenir ?
C'est pas que l'avenir, mais je pense que de plus en plus, nous créons des espèces de robots comme on a des animaux de compagnie autour de nous. On crée une espèce de nouvel être, des êtres numériques robotisés. D'ailleurs, Ben Soussan, qui est un avocat très, très célèbre et bien connu, propose de donner une personnalité morale, comme il y a des personnalités physiques, de donner une personnalité numérique au robot. Parce que si une voiture autonome qui est un robot tue quelqu'un, qui est-ce qui est responsable ? L'assurance, le constructeur ? Qui. Donc je pense qu'on va de plus en plus vers une espèce, dans un siècle, et peut-être avant, à la création autour de nous d'une nouvelle espèce vivante, entre guillemets, numérique, que sont les robots, à la fois les algorithmes dans les ordinateurs et des robots physiques anthropomorphes qui nous ressemblent autour de nous.
Il reste à savoir si on aura assez de ressources naturelles pour créer tout ça. Et il y a peut-être aussi quelque chose d'essentiel au-delà de tout cet attrait pour la technologie, c'est l'importance de repenser notre place à nous, l'humain, dans la nature, dans l'écosystème global, avec peut-être un peu d'humilité.
Absolument, de l'humilité, vous avez raison, c'est le grand thème de notre forum Changer d'air du 21 juin à la Cité des Sciences. Ça s'appelle justement « Trouver sa place ». Et trouver sa place, c'est à la fois une réflexion personnelle sur à quoi on sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres, et c'est en même temps toute la formation, l'éducation, la formation professionnelle, l'éducation publique et privée. Donc c'est grâce à l'information, grâce à des émissions comme celles que vous faites à l'échelle internationale, grâce à des livres comme ceux que nous écrivons, qu'on peut aider à prendre conscience de son rôle pour changer les choses, se changer soi-même avec l'épigénétique et se changer collectivement avec l'épimémétique, qui est la possibilité de modifier les gènes de l'ADN sociétal, qui est en fait la démocratie participative. Donc il y a de l'espoir, c'est ce que j'essaye de dire dans mon livre. J'essaye d'avoir une attitude positive et de montrer l'espoir plutôt que les catastrophes permanentes.
Voilà, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission, finalement. Une leçon d'optimisme avec le professeur Joël de Ronay. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, c'est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre application Pure Radio ou sur le site de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.